Bonsoir, à très bientôt. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous sur le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 6 octobre 2023, en direct de Washington, Rosine Mounezero. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi a été démis de ses fonctions. Le président Alassane Ouattara a annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement à 2 ans de la présidentielle. Élection présidentielle au Liberia, l'ex-footballeur star George Weah, élu président en 2017, remet son poste en jeu mardi face à 19 candidats. Le prix Nobel de la paix 2023 a été attribué à la militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi. Et dans le dossier du jour, vous aurez les réactions au mandat d'arrêt international lancé par le gouvernement tchadien contre l'opposant succès Mastra. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a démis ce vendredi de ses fonctions son premier ministre Patrick Hachi, en poste depuis 2021. Un nouveau gouvernement devrait prochainement être formé à 2 ans de la présidentielle. Mouamadou Oumfa.
Monsieur Ouattara a signé un décret mettant fin aux fonctions du premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement, selon un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa gratitude au Premier ministre Patrick Hachi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. Cette décision était attendue ces derniers jours, le président ayant informé les membres du gouvernement d'un prochain remaniement lors du dernier Conseil des ministres le 28 septembre. Nommé en mars 2021, le Premier ministre Patrick Hachi a remporté le mois dernier une confortable victoire aux élections locales dans sa région de la Mai, dans le sud du pays, ce qui pourrait favoriser sa reconduction dans le prochain remaniement, qui devrait cette fois être plus important et donner des indications sur les poids lourds sur lesquels compte le RHDP, le parti au pouvoir, pour la présidentielle de 2025.
Le retrait des troupes françaises stationnées au Niger concernera dans un premier temps les 400 soldats stationnés dans la ville de Ouanam, dans le sud-ouest, a déclaré l'agent jeudi soir. Les militaires ont déclaré qu'ils veilleraient à ce que le départ se fasse dans l'ordre, en toute sécurité et dans le respect des intérêts et des conditions du Niger. L'agent a appelé les citoyens à la vigilance pendant cette période de transition. Le ministère français des armées a fait savoir jeudi que ce retrait va débuter cette semaine. Au Mali, les partisans d'une importante figure religieuse et politique malienne, l'imam Mahmoud Diko, appellent à une marche le 13 octobre à Bamako pour exiger le retour des civils au pouvoir après le récent report des élections par les militaires, a indiqué leur coordinateur vendredi. Cela fait plus de 3 ans que la gestion de la transition est confiée à des autorités militaires. Hélas, les raisons pour lesquelles le peuple malien est sorti pour combattre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta n'ont pas pu être atteintes, a déclaré Youssouf Baba Diawara, coordinateur de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam, ajoutant que la faute incombe aux tenants du pouvoir. L'ex-footballeur George Weah, élu président en 2017, remet son poste en jeu à la présidentielle le mardi face à 19 candidats. Quelques 2,4 millions d'électeurs renouveleront aussi les 73 sièges de la Chambre des représentants et 15 membres du Sénat. L'Union africaine, la CEDEAO, les États-Unis et l'Union européenne ont déployé des observateurs. Nathalie Barge.
À Monrovia, des affiches montrent Weah aux côtés de sa colistière Jewel Howard Taylor, ex-épouse de Charles Taylor. En 2017, il l'avait emporté avec plus de 61% au second tour contre l'ancien vice-président Joseph Boakai, candidat du Parti de l'Unité, qui à 78 ans veut sa revanche. Boakai a noué plusieurs alliances, dont une avec l'ancien rebelle et sénateur Prince Johnson, qui avait soutenu Weah en 2017. Les deux autres principaux rivaux de Wea sont l'homme d'affaires Alexander Cummings et l'avocat Tiawan Gonglo, dont les résultats pourraient être déterminants dans la perspective d'un second tour. Sur les 20 candidatures, seulement 2 femmes dans un pays qui a été dirigé pendant 12 ans par Ellen Johnson Sirleaf. Il s'agit de Bendu Krumah, une économiste qui a notamment travaillé pour l'État américain de Californie, et de l'experte en développement Sarah Beisolo Nayanti, que le secrétaire général des Nations Unies avait nommée comme représentante spéciale en décembre 2021. Les autorités promettent des élections libres et pacifiques et jurent de traquer les éventuels fauteurs de troubles. Un second tour est prévu début novembre, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour, le 10 octobre.
En Tunisie, la justice a ordonné jeudi l'incarcération d'Abi Moussi, une opposante de premier plan au président Kais Saied. 2 jours après son arrestation à l'entrée du palais présidentiel, a déclaré son avocat. Cette décision a été prise après plusieurs heures d'interrogatoire, a-t-il précisé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prix Nobel de la paix 2023 est décerné à Narges Mohammadi, une militante iranienne des droits des femmes qui purge une peine de 12 ans d'emprisonnement. L'ONU a salué une récompense qui distingue le courage et la détermination des femmes iraniennes et demande la libération de la lauréate. Alexandrine Ollognon.
Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2023 à Narges Mohammadi pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits de l'homme et la liberté pour tous. C'est ce qu'a déclaré Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien. Le comité chargé de décerner le prix a exhorté l'Iran à libérer Madame Mohammadi, qui purge actuellement plusieurs peines à la prison d'Evin à Téhéran. Les charges retenues contre elle comprennent la diffusion de propagande contre l'État. Le prix reconnaît également les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre la discrimination et l'oppression des femmes en Iran. Dans une déclaration, Elisabeth Trussell, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, a demandé la libération de la lauréate et salué un Nobel de la paix qui récompense le courage et la détermination des femmes iraniennes face aux représailles, aux intimidations, à la violence et à la détention.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été mis en examen ce vendredi dans le cadre de l'enquête sur des manœuvres frauduleuses liées au financement de sa campagne présidentielle 2007. C'est ce que rapporte une source judiciaire. Plus d'infos avec Nani Talani.
D'après cette source, Nicolas Sarkozy a été inculpé pour recel de subornation de témoins concernant la rétractation de l'intermédiaire franco-libanais Ziyad Takedine de ses accusations contre Sarkozy concernant la livraison de fonds libyens en France. Il aurait fait cette rétractation en échange d'une possible rémunération. Sarkozy a aussi été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. Cette inculpation ouvre la voie à un possible nouveau procès contre Nicolas Sarkozy. Par cette inculpation, les juges signifient qu'ils estiment disposer de suffisamment d'indices graves ou concordants sur la participation de Sarkozy aux manœuvres élaborées par au moins 9 autres protagonistes impliqués, possiblement en leur donnant son aval. D'après la source judiciaire, M. Sarkozy a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté pour l'infraction relative à une corruption de personnel judiciaire étranger au Liban. Certains protagonistes de cette opération sont en effet soupçonnés d'avoir tenté de corrompre des magistrats libanais pour qu'ils libèrent un fils Sarkozy détenu dans ce pays afin que la famille de Kadhafi en retour facilite la mise hors de cause de M. Sarkozy. L'ancien président français est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur, ont fait savoir ses avocats.
La Maison-Blanche a entamé des préparatifs d'une rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping qui pourrait se dérouler le mois prochain à San Francisco, rapporte le Washington Post, citant des hauts responsables de l'administration américaine. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Les organes de paix et de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent depuis jeudi à Addis Abeba du financement des opérations de maintien de la paix de l'organisation panafricaine. Depuis plus d'une décennie, les pays africains demandent qu'elles soient financées par des contributions obligatoires des pays membres de l'ONU. L'Union africaine peine à financer ses opérations de paix qui dépendent largement de partenaires tels que l'Union européenne. Lors de la troisième conférence de financement du Fonds vert pour le climat jeudi à Bonn en Allemagne, plus de 9,3 milliards d'euros ont été promis par 25 pays. Cinq autres, dont les États-Unis, ont dit qu'ils s'engageraient ultérieurement. L'objectif est de doper le capital du fonds de 17 milliards de dollars à 50 milliards d'ici 2030. Certains États ont augmenté, voire doublé leur contribution par rapport à 2019. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a présidé jeudi, en présence de son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le lancement de l'autorité de gestion des frontières au port de Limpopo. Cette plateforme vise à faciliter le commerce frontalier plus d'un an après le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. La présidence affirme travailler à l'éradication de la paperasserie qui entrave le commerce et la circulation des personnes.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
On commence avec la CAF qui a procédé ce vendredi au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération 2023-2024.
Suivant ce tirage complet de la phase de groupe de la CAF, le groupe A inclut l'UCM Alger d'Algérie, Futur SC d'Égypte, Supersport United d'Afrique du Sud et Al-Hilal Benghazi de la Libye. Dans le groupe B, on trouve Zamalek d'Égypte, Sagrada Esperanca d'Angola, Sohar de la Guinée et Abou Selim de la Libye. Le groupe C inclut Rivers United du Nigeria, Club africain de la Tunisie, Dreams FC du Ghana et APC Lobito de l'Angola. Enfin, le groupe D réunit RS Berkane du Maroc, les Diables Noirs du Congo-Brazzaville, le Stade Malien du Mali et Sekou Noumé United d'Afrique du Sud. Enfin, le groupe D réunit RSM Berkane du Maroc, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, le Stade Malien du Mali et Sekou Kouné United de l'Afrique du Sud.
L'entraîneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a rendu public ce vendredi la liste de 26 joueurs des Lions de la Teranga retenus contre le Cameroun.
Notons d'abord que suite à l'annulation du derby face au Mali, le Sénégal aura un seul match au programme lors des prochaines dates FIFA face au Cameroun en amical, le 16 octobre en France. Selon la liste du sélectionneur des champions d'Afrique, Aliou Cissé, il a appelé pour la première fois Mamadou Sané, qui a 18 ans et qui joue avec Aris Limassol en Chypre et qui a aussi été vainqueur du Chan. On compte aussi Noah Fadiga qui signe son retour. Nopalis Mendy, qui a récemment rebondi à Lens, signe aussi son retour après avoir été écarté le mois dernier en raison de son statut de joueur libre. Puis, sans surprise, on a les éternels suspects comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Nicolas Jackson, Lamine Camara et les Marseillais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Youssouf Sabali et Formose Mendy, forfaits, seront absents. Le milieu de terrain Pape Gay de l'OM qui est suspendu et l'attaquant Bomba Dieng de Lorient blessé manquent aussi à l'appel.
La billetterie des Jeux paralympiques qui se joue du 28 août au 8 septembre à Paris en France en 2024 s'ouvre lundi avec 2,8 millions de places disponibles.
Tout à fait. Afin d'y parvenir et peut-être dépasser les 2,7 millions de billets de Londres en 2012, la formule de vente se veut différente et moins chère que celle des Jeux Olympiques. Contrairement aux JO, où l'achat passait d'abord par un tirage au sort, les sésames pour assister aux quelques 550 épreuves des Paralympiques seront à décrocher selon l'adage « premier arrivé, premier servi ». La totalité est mise en vente à partir de lundi matin, 10h00, temps universel, avec des prix allant de 15 à 700 euros. Parmi ces plus de 2 millions de billets, 60 000 seront des places faciles d'accès et 12 000 réservées aux personnes en fauteuil roulant.
Merci Nani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero de retour avec vous. Nous passons à nos dossiers du jour. Au Tchad, le gouvernement lance un mandat d'arrêt international contre Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, signé le 8 juin 2023 par le procureur général près de la cour d'appel d'Ndjamena, Mahmat El Hadj Abanana. Le document n'a été rendu public que jeudi. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre l'opposant tchadien, entre autres tentatives d'atteinte à l'ordre constitutionnel et l'autorité de l'État, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel. André Codemandigar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Pour beaucoup d'observateurs, l'appareil judiciaire est en train d'être instrumentalisé, comme d'habitude, pour des intérêts politiques.
Le problème, c'est que Masra Succès, l'opposant célèbre tchadien, a annoncé son retour pour le mois d'octobre, même sans condition, à N'Djamena. En fait, cette date n'est pas choisie par hasard. C'est une date pour rendre imprescriptible le crime de répression dans le sang des jeunes qui avaient manifesté le 20 octobre 2022.
Professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice. Pour lui, le document a été signé le 8 juin, mais si on le rend public maintenant, c'est une manière d'intimider Masra pour l'amener à renoncer à son retour au pays.
C'était pour consacrer l'imprescriptibilité et surtout de rendre ineffaçable dans la conscience du pouvoir en place ce crime qui est resté imprescriptible. Et c'est pour cela qu'il voulait revenir à la date qui coïncide avec celle de la manifestation réprimée, qualifiée de tous les crimes, qualifiée de tentative de coup d'État ou qualifiée d'insurrection. Mais en fait, c'est depuis longtemps que ça a été signé. Mais si maintenant on le rend public, c'est pour faire peur aux leaders du transformateur de renoncer à son retour à cette date-là. Le problème est très bien calculé et c'est dommage pour le Tchad.
Pour Franck Nakingar, membre de l'Observatoire des droits et libertés au Tchad, le mandat d'arrêt international qui vise le président du parti Les Transformateurs, Dr. Succès Masra, ne surprend pas les Tchadiens avertis.
Les propos du Premier ministre et du ministre de la Réconciliation nationale il y a quelques semaines va dans ce sens. Tout est préparé pour que Masra soit arrêté à sa descente d'avion et pour éviter d'être touché sur les événements du 20 octobre. On a trouvé d'autres arguments, d'autres astuces pour dire qu'il a tenu des propos sur la toile. Simplement, c'est tout. Et c'est des calculs politiques. Il y a des gens, effectivement, qui ne veulent pas de la présence de Masra Succès à N'Djamena. Donc, ils font ce qu'ils peuvent pour l'empêcher de rentrer.
Sosthène Bernoudi, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, estime que cette décision judiciaire est en contradiction avec la main tendue du président de la transition et le processus de la réconciliation nationale en cours.
On vous juge à l'apaisement. À mon humble avis, ce mandat est malvenu parce que quand on vit une transition et surtout on sort d'un passif lié aux événements du 20 octobre, son retour doit être encadré pour que les Tchadiens se réconcilient et amorcent un nouvel élan dans le développement. Mais dès lors que le procureur sort ce mandat pour pouvoir l'intimider, eh bien, le pouvoir utilise bien sûr la justice comme un moyen de répression, un moyen pour bâillonner toute voie discordante.
La qualité du procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, Mahamat El Hadj Abanana, l'auteur de ce mandat d'arrêt international contre l'opposant Dr. Succès Masra, a été contesté dès sa nomination en février dernier par les avocats au barreau du Tchad. Pour l'instant, aucune réaction du côté des autorités tchadiennes en rapport avec le mandat d'arrêt émis contre Dr. Succès Masra. André Kordomadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les spécialistes de la santé estiment que la mise en place de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique, IRCAD Africa, permettra au continent d'avoir un effectif suffisant et bien formé. Ce centre s'ouvre au moment où l'Afrique accuse une carence de plus de 5 millions de personnel médical. De Kigali, le récit de Jean Damasène Manichimie.
La disponibilité des spécialistes dans le domaine médical est un défi de taille pour la plupart des pays africains, une situation qui compromet le bien-être de la population et nuit à la qualité des services médicaux, comme l'indique Mme Yvonne Keza, analyste médicale à l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique, IRCA d'Africa.
Nous sommes confrontés à l'insuffisance des spécialistes, surtout en radiologie. Dans certains hôpitaux, on peut faire un test médical sans pouvoir interpréter ses résultats, faute de spécialistes en radiologie.
À cette carence des médecins spécialistes s'ajoute l'insuffisance généralisée du personnel médical sur le continent africain, un vrai défi pour les gouvernements selon Osaon Enabulele, président de l'Association médicale mondiale.
Les gouvernements doivent beaucoup s'investir. En Afrique et dans les pays à faible et moyen revenu, nous observons un grand déficit. À l'heure où nous parlons, l'Afrique connaît une carence de 5 millions et 300 000 de personnel médical. Les gouvernements ont beaucoup à faire, mais ont besoin aussi d'autres partenaires pour combler cette carence. Nous devons travailler ensemble pour que nos organes médicaux fonctionnent efficacement pour répondre aux besoins de la population.
Pour pallier à ce problème, les étudiants de 16 nationalités africaines viennent entamer les cours à l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique, qui a été inauguré à Kigali, au Rwanda. Pour les initiateurs de cet institut, l'amélioration des soins médicaux en Afrique est un grand bénéfice pour la population africaine.
Aujourd'hui, nous avons quand même un bon nombre de partenaires et nous croyons que ça va créer un écosystème qui va faire que nos chirurgiens seront bien formés, mais aussi ils seront en partenariat avec des sommités internationales. Ça crée déjà un réseau qui est très intéressant.
À part l'amélioration de la qualité des services, IRCAD Africa est perçu aussi comme un moyen de permettre au continent de prospérer économiquement, souligne Guillaume Maresso de l'IRCAD.
Il va l'aider de manière très simple, il va apprendre des technologies qui pour l'instant ne sont pas encore totalement bien maîtrisé et bien éduqué, enfin bien enseigné ici en Afrique. Il y aura besoin d'investissement de la part des gouvernements pour que les chirurgiens puissent ensuite mettre en place tout ce qu'on va leur apprendre, mais c'est l'avenir de la chirurgie et c'est l'avenir économique pour tous les gouvernements et tous les ministères de la santé en Afrique. Il faut qu'ils fassent ça pour investir et c'est pas une dépense.
IRCA d'Africa, qui vient d'ouvrir ses portes à Kigali, est le premier du genre sur le continent africain. Il compte déjà 60 étudiants venus de 16 pays africains qui suivent une formation en chirurgie mini-invasive. Jean Damasceneman est signé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, les experts craignent que de plus en plus que la pauvreté des personnes âgées ne s'aggrave dans quelques années si les problèmes liés à la faible couverture des retraites ne sont pas résolus. Les statistiques de l'organisme nigérian de réglementation des pensions montrent que seule une petite partie des travailleurs de ce pays d'Afrique de l'Ouest sont alliés à des régimes de pension. Reportage de Gibson Emeka depuis Abuja, au Nigeria. Le récit est de Nani Talani.
Elias Ouadji, 53 ans, travaille comme responsable logistique pour une entreprise privée d'électronique à Abuja, la capitale du Nigeria. Bien qu'il travaille depuis plus de 10 ans, Elias Ouadji n'a souscrit à aucun plan d'investissement dans les retraites. Il affirme que son employeur ne l'a pas correctement informé de la nécessité ou de l'importance d'un régime de retraite.
C'est juste travailler et partir. Ils vous payent et vous partez. Il n'y a rien comme la pension. Ils n'ont pas discuté de la pension avec l'entreprise.
Elias Ouadji n'est pas le seul. Les risques de pauvreté des personnes âgées s'aggravent avec l'âge, en particulier dans les pays à faible revenu comme le Nigeria, en raison du manque d'éducation en matière d'investissement dans la retraite et de l'insuffisance des systèmes de protection sociale. Une fois à la retraite, les personnes âgées sont obligées de dépendre des autres pour la nourriture, les médicaments et d'autres besoins. Samuel Dinadou, psychologue clinicien à Abuja, explique que la pauvreté aggrave l'impact psychologique de la solitude, du stress et de la vulnérabilité associée au vieillissement.
Cela les laisse satisfaits, désespérés, dans une sorte de chaos psychologique. Quelle est l'implication psychologique? Le niveau de stress devient élevé parce que la pauvreté est un déclencheur de stress.
Trigger for stress.
Les régimes de retraite sont conçus pour lutter contre la pauvreté liée à la vieillesse, mais la croissance de ce secteur a été lente au Nigeria. Selon la Commission des pensions du Nigeria, seuls 15 à 17% de la population active du pays avait un compte de pension active en 2022. Obinaya Ouarpa, économiste et analyste des affaires publiques, attribue cette faible couverture à un manque de sensibilisation, à des pensions limitées et, dans certains cas, à des fraudes.
Il y a des retards dans le paiement des pensions, en particulier au niveau sous-national. Certaines agences gouvernementales ou certains employeurs de main-d'œuvre ont délibérément gardé les pensions de leur personnel et certains qui ont déduit les pensions ne les ont pas versées.
Pour aider à résoudre le problème, les experts nigérians exhortent le gouvernement à investir dans la sensibilisation des travailleurs à la retraite anticipée et à encourager les travailleurs à participer dans ce programme en contrôlant et en éliminant les boulets d'étranglement dans le paiement des retraites.
Les autorités américaines et mexicaines ont discuté de l'immigration, du trafic de drogue et d'autres problèmes communs jeudi à Mexico. Mais c'est la confusion autour d'une éventuelle extension du mur frontalier qui a forcé le secrétaire américain à la sécurité intérieure à clarifier la position de l'administration Biden. Davantage avec Veronica Balderas Iglesias de la VOA, le récit est de Ginny Niwa.
C'est une journée entière de discussions de haut niveau qui a été consacrée à la sécurité entre les responsables américains et mexicains. Les travaux se sont concentrés sur l'évaluation et le renforcement des progrès réalisés par les deux pays sur plusieurs fronts difficiles, notamment en ce qui concerne les flux de drogue et d'armes à feu illicites. Écoutons le secrétaire d'État Anthony Blinken.
Nous approfondissons notre coopération en matière d'enquête, d'arrestation, de poursuite et d'interception. Les autorités mexicaines soumettent aux États-Unis 40% de demandes de traquage d'armes à feu de plus qu'il y a 6 ans, ce qui permet aux forces de l'ordre d'arrêter le trafic d'armes à la source.
La récente extradition d'Ovidio Gomez Lopez, chef du cartel de Sinaloa et fils de Joaquim El Chapo Guzman, a été saluée par le ministre de la Justice des États-Unis, Merrick Garland.
Nous reconnaissons que cette action n'aurait pas été possible dans le sacrifice des membres des forces de l'ordre et de l'armée mexicaine qui ont donné leur vie pour que justice soit faite.
Tout en soulignant que le Mexique n'est pas un pays producteur de fentanyl, la secrétaire à la sécurité Rosa Isela Rodriguez a annoncé de nouvelles stratégies pour freiner le commerce illicite de cette drogue et de ses précurseurs.
Nous allons organiser une réunion des pays producteurs de précurseurs chimiques pour réguler le marché et nous continuerons à poursuivre les organisations criminelles qui achètent et vendent actuellement les drogues de synthèse.
Jeudi, c'était la première fois que la migration faisait partie de l'ordre du jour de l'événement bilatéral récurrent, mais c'est la confusion entourant la position de l'administration Biden et ses récentes actions concernant l'extension du mur frontalier qui a fait les gros titres. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a nié tout changement de politique.
The construction project.
Le projet de construction dont il est question aujourd'hui a fait l'objet d'une appropriation d'un financement sous l'administration précédente en 2019 et la loi exige que le gouvernement utilise ses fonds à cette fin.
Plus tôt dans la journée, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador avait vivement critiqué cette décision. Au moment où les discussions bilatérales étaient sur le point de s'achever, la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, a adopté un ton plus conciliant.
Je crois que le secrétaire Mayorkas a clarifié la situation et malheureusement cette annonce coïncide avec leur visite.
Monsieur Mayorkas a souligné qu'une sécurité frontalière efficace nécessitera une approche globale, y compris une technologie de surveillance de pointe et la modernisation des points d'entrée.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Sabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM 99.5, Cancan Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.